En 2006, Nicolas Cage essaiera de nous expliquer pourquoi est-ce qu'il aime autant les abeilles. Bienvenue dans Citizen Cage. Cop car. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it.
What? I'm gonna steal the Declaration of Independence. Put the bunny back in the box.
I'd like to take his face off.
Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast qui parle des films de Nicolas Cage dans l'ordre chronologique. Je suis un de vos hôtes, Alexis Duclos, et je suis comme toujours accompagné par Julien Asunsao. Salut Julien.
Salut Alexis. Bon, tu m'as... Avec ton intro, c'est bon, j'ai déjà quelques répliques du film dans la tête. Cet épisode est très bien lancé.
Parce qu'aujourd'hui, on va parler de...
Eh ben oui, on va parler de The Wicker Man. Donc tu l'as dit, film américain, enfin américano-germano-canadien. Il fallait bien trois pays pour réaliser ce chef-d'œuvre.
Ce chef-d'œuvre.
Hein. Donc de 2006, réalisé par le très connu Neil Labrut, hein. Labute plutôt.
Labute,
ouais. Ouais, Labrut. On pourrait penser à ça vu son style de réal, je sais pas. Mais bon. Qui a pas fait grand chose d'autre. Hein. Il a fait un film récemment qui s'appelle Harcelé. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un film avec Samuel Jackson qui joue un flic qui patrouille dans sa bagnole et je sais pas. Je crois qu'il y a genre des gamins qui tombent sur lui, qui commencent à le faire chier. Et c'était pas le mec qu'il fallait faire chier quoi.
Faut jamais faire chier Samuel Jackson, mais surtout ouais. Samuel Jackson qui joue un flic. Il y en a beaucoup des films comme ça, non?
Oui, mais là c'est un flic méchant. c'est moi mon courant. Je savais pas que c'était lui, mais voilà. Okay. Après, à part ça, qui est assez récent. Au moins, ça va. Ça veut dire que sa carrière est pas totalement finie. Bref. Donc, avec dans les rôles principaux, donc on a Ellen Burstyn, Kate Beham, Frances Conroy, Molly Parker et bien sûr Nicolas Cage. Pas mal de rôles féminins. Hein. Ça, c'est, vous le verrez, c'est un peu lié. C'est quand même pas mal lié à l'histoire. Ouais. Et puis en parlant d'histoire, donc on a Nicolas Cage qui va incarner un shérif qui enquête sur la disparition d'une jeune fille sur une petite île. Et en arrivant sur place, il va découvrir que en fait, le mystère principal, c'est que il y a une communauté néo-païenne qui vit sur l'île et qui est assez secrète et inquiétante. Donc voilà, il va un petit peu être seul au monde à fouiller. quel est le mystère derrière cette communauté.
Mais pas le film avec Tom Hanks, ça va être un petit peu différent apparemment.
Ouais, et puis moi, après on peut dire effectivement quand même que The Wicker Man c'est surtout un remake d'un très grand film à la base, donc qui était sorti en 1973 avec donc réalisé par Robin Hardy et avec l'immense Christopher Lee. Pas dans le rôle principal, pas de l'enquêteur, mais dans un des rôles principaux quand même, qui est quand même un film très important du film, comment on pourrait le qualifier, parce que c'est pas un film d'épouvante, mais bon, du film de genre en tout cas, qui est avec cet univers justement de néo-païen qui est assez particulier. Il n'y a pas énormément de films qui se passent dans ce thème-là. On peut penser, récemment, il y a quand même eu le film de Ari Aster.
Midsommar, ouais.
Voilà, Midsommar qui reprenait Midsommar, un petit peu ce délire-là. On a un peu une résurgence de ce genre de thème. Mais c'est quand même assez original, donc voilà. Est-ce que tu as vu, toi... Alors, peut-être, est-ce que tu avais vu l'original?
Alors j'avais vu l'original, oui, parce que Christopher Lee c'est quand même pas n'importe qui, puis fut un temps j'avais fait une petite filmographie Christopher Lee où j'avais regardé tous ses films.
Ouais, tu t'es fait un petit Citizen Cage de Christopher Lee.
Il y a quelques années de ça, voilà, dans mon coin. Ce qui est aussi à peu près aussi long que les films de Nick Cage, si on veut bien dire ça, parce que Christopher Lee en a quand même fait un bon paquet aussi. Putain,
je crois qu'il y en a plus, ça m'étonnerait pas. Moi personnellement, j'avais vu le remake, enfin l'original après le remake.
Ah, ouais. Ben, mais par contre, en ce qui concerne le remake, tu le sais très bien, je te l'ai déjà dit, ben non, j'ai jamais vu le remake. Tout ce que je sais du remake, c'est The Bees, et c'est pas mal scène. Tout. Ouais. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce film-là. Je pense que c'est sur la liste de tous les films qu'on a. Bon, bah, tu sais, mis à part ceux que j'ai envie de revoir, là, oui. Tu sais, genre ben, Face Off et tout ça, là, ben, on les a déjà vus maintenant, mais c'est vraiment celui que j'ai pas vu qui vient me chercher le plus, là, pour l'instant.
Ouais, je peux comprendre. Moi, en tout cas, c'est celui que je suis le plus excité que tu vois. de découvrir ta réaction en direct lors de l'enregistrement de la deuxième partie.
Mais c'est surtout très fascinant, en fait je trouve ça super fascinant, puis c'est surtout aussi, je pense, c'est un peu pour ça, je pense que j'ai vraiment hâte de le voir, c'est parce que ce film-là a un peu cette aura extrême de film tellement pas bon qu'il en est drôle, en fait. Et c'est aussi pas mal la pierre angulaire de pourquoi les gens aiment pas Nick Cage quand tu leur parles. Quand tu leur dis que, tu sais, bah, moi, quand je dis aux gens que j'adore Nicolas Cage, la première chose qu'ils me disent, c'est « Est-ce que t'as vu The Wicker Man ?» Puis je suis genre... Bah déjà, je leur dis « Non, mais je sais à quel point il est pas bon. » Bah, je sais, j'ai vu des images, puis je sais qu'il est pas génial là-dedans. Bah, ça dépend de ton interprétation, on va dire. Ça dépendra de la nôtre une fois qu'on aura fini, mais les gens ont tendance à toujours revenir sur ce film-là. Donc, j'ai envie de voir si... Parce que j'y crois pas un seul moment, mais j'ai envie de voir si le film est pas bon au point où ça va me faire changer d'avis sur Nick Cage, tu vois, parce que j'y crois pas, quoi. Pour moi, c'est pas un film qui va changer toute une filmographie de films qui sont quand même, mine de rien, pas si dégueulasses que ça jusque là j'ai aussi l'impression que c'est un peu la pierre angulaire du moment où ça a commencé à partir en couille aussi, hein, sa carrière. Donc c'est à voir, j'ai hâte de voir ça.
Ouais, c'est vrai que c'est un de ses premiers films où on se demande un petit peu qu'est-ce qu'il allait faire dans ce projet. Notamment parce qu'en parallèle, il était sur quand même des gros projets. Il venait de faire, il n'y a pas si longtemps, National Treasure, donc qui était quand même un gros blockbuster. Il va faire dans pas longtemps
Ghost Rider.
Et là, au milieu, il y a un film qui, au final, est... Bah, avec un casting assez... assez peu connu, un remake. Alors peut-être que, est-ce que il était fan du film d'origine et ça a pu l'amener à faire ce remake, je sais pas, mais c'est vrai que ça fait un peu partie de du genre de film qu'on pourrait retrouver plus tard dans sa filmographie. Donc dans ce sens-là, oui, c'est vrai que c'est peut-être un précurseur. Après, moi, mes souvenirs sont vraiment très très flous, globalement, sur des scènes précises, je veux dire. Ce que je me rappelle, c'est que quand j'avais vu le film, j'avais été vraiment sans voix. beaucoup de questions, beaucoup de pourquoi. Mais par contre, pas forcément sur la performance de Cage en particulier, plus que c'était vraiment un travail d'équipe, quoi. C'était un ensemble, d'accord. Que c'était vraiment... Tout le film était à un niveau... C'est pas Cage qui pétait un câble dans son coin. C'était vraiment tout le film qui était... Tu te dis, mais quelle était la direction derrière ce film? Et en même temps, il y a une certaine cohérence entre les différents acteurs, mais je dirais pas que c'était pour le mieux, quoi.
Ça m'intéresse encore plus, là. Je pense qu'il y a encore plus de me vendre le film, donc j'ai vraiment hâte de le voir. Puis,
tu vois, par exemple, la scène avec les abeilles, limite, ça m'a pas marqué quand j'ai vu le film. C'est plus après quand les gens la ressortent. Et même quand je la revois, tu vois, elle me choque pas plus que ça, en vrai. Je trouve que j'ai pas l'impression que Sketch soit si ridicule là-dedans. Je sais pas pourquoi celle-là plus que d'autres. Enfin, on a vu pas mal d'autres scènes dans d'autres films qui étaient pires, je pense.
Oh oui, oui, oui.
Mais,
Oui.
Mais par contre, le film dans son ensemble, il est assez gratiné de ma mémoire. Donc, il me tarde de le regarder aussi. Donc, on va peut-être pas patienter plus et y aller tout de suite, quoi.
Ah, je suis prêt, sautons dans les méandres de Nicolas Cage.
Aussi prêt que l'on puisse l'être, oui. Ouais. Eh ben, allez, c'est parti.
À tout de suite.
Oh, what is it? 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 Oh non, non, not the bees! Not the bees! Ah! Oh, no, my eyes! My eyes!
Et on est de retour après avoir vu The Wicker Man en français, je sais plus.
Oui.
Ok. De Neil LaBute et non pas LaBrute comme je pense à chaque fois.
Oui, bah, fameux jeu en ligne de notre jeunesse.
La brute ?
Tu te rappelles pas ?
Non.
T'avais genre un personnage et tu pouvais faire des combats contre d'autres gens et t'envoyais le lien à tout le monde pour qu'ils se battent contre ton perso. Enfin, je crois, j'ai l'impression.
Ok. De...
J'ai l'impression que c'était ça, mais voilà, c'est il y a longtemps. Ouais, l'époque des jeux Flash, quoi. Bref.
Ben voilà, un épisode sur les jeux Flash aujourd'hui. Très bien.
Putain, oui, c'est les RIP, on a envie de dire.
RIP Flash, ouais, c'est vrai.
Mais oui, bah écoute, The Wicker Man, ouais, nom similaire en français, bon, je sais pas comment on aurait pu le traduire.
L'homme paille. Ou l'homme.
Bah, en fait, le film de l'époque, donc, parce qu'on rappelle que c'est un remake, donc le film de 1973 s'appelait Le Dieu d'Osier. Donc,
ah bah voilà, oui.
Why not?
L'homme d'Osier, on aurait pu appeler ça comme ça.
Oui, car man, c'est dit. Dire
homme. Et non pas Dieu. Voilà.
Sachez-le. Mais bon, bref. Et bah écoute, est-ce que tu as quelque chose à dire? Parce que, alors, je sais plus exactement ce qu'on avait dit dans l'intro, enfin de ton côté, mais il me semble que tu n'avais pas un souvenir.
Je l'avais pas vu. Pas sûr d'avoir vu. J'avais juste jamais vu The Wicker Man.
Donc tu confirmes que tu l'avais pas vu.
Je l'avais pas vu. Okay. Et maintenant je l'ai vu. Voilà, parce que c'est le but de notre podcast.
Oui. Est-ce que tu te sens. Est-ce que tu as l'impression d'avoir quand même vécu quelque chose?
Ah non, c'est une
aventure. Quelque chose qui te manquait dans ta vie.
Le truc, c'est que c'est un peu compliqué. Je veux pas commencer à en parler. C'est parce que, genre, je veux pas qu'on commence à, genre, à parler de Nick Cage. Parce que, on fait ça à la fin. Mais c'est quelque chose que, j'ai regardé ce, en plus, c'est super drôle parce qu'en général, okay, j'ai regardé ce film, j'étais un peu fatigué. Puis normalement, quand je regarde des films fatigués, tu sais, ça me rentre moins dans la tête ou ça vient moins me chercher. Et là, je pouvais pas, genre, enlever mes yeux de l'écran. Nick Cage est complètement pété dans ce film, mais d'une manière étrange, en fait. J'ai l'impression qu'il savait pas quoi faire, et ça rend une performance qui est, une performance d'exception. Mais alors, dans quel sens? Je vous le dis pas tout de suite, parce qu'on en reviendra plus tard, parce que je pense que c'est le moment de faire notre petit résumé du film, parce que c'est un film que je ne comprends pas. C'est pour les gens qui connaissent ce film, j'ai l'impression que c'est le Midsommar du pauvre. Et c'est incroyable. Enfin, bref.
Ouais. Oui, c'est bien de faire un peu de teasing avant de commencer. Ouais. Tu as raison. Moi, pour teaser de mon côté, je dirais que. Bizarrement, j'en avais souvenir d'un film qui était catastrophique. Il a 15% sur Rotten Tomatoes, voilà, est souvent cité comme, peut-être pas un des pires films de l'histoire, mais il y a un peu ce côté-là. Et en fait, c'est un film bancal, mais je l'ai trouvé moins nul que.
Oui, non, mais c'est, en
je
fait.
Je trouvais que c'était un peu exagéré, quoi.
Je pense que c'est un peu devenu notre problème à nous, hein, en tant, toi et moi, en tant que que Nicolas Cage est aficionado, c'est que maintenant les films que les gens considèrent comme des mauvais films, nous on les regarde, on est genre bon bah ça va quoi, c'est pas.
Non mais quand j'étais gamin que je l'ai vu, t'as pas vu autant de films, donc forcément tu te dis bah c'est très nul.
Oui, oui.
Mais en fait quand t'as vu plein d'autres films, tu te dis ah ouais, mais en fait c'est juste. Enfin, il y en a plein des films qui sont horribles, mais celui-là, je sais pas si je. Mais, le décret comme tel, mais écoute, tu as très fortement raison. On va faire notre résumé habituel avant de partir en cacahuète et complètement oublier notre structure habituelle.
Voilà.
Et bah écoute, je te laisse commencer.
Oh, bah tu es bien gentil. Alors, on a le droit au opening shot, je crois, qui est probablement un des grands de Nick Cage là. Je sais pas là, mais je trouve que Nick Cage dans un costume de policier sur une moto à l'américaine, un peu limite, tu sais, fascisme, cop car, très droit, carré, cuir, moto là, que ça lui va si bien. Ça lui va si bien, là. Il est en train de rouler sur une route, forcément, parce que c'est une route des États-Unis, on le voit parler avec des gens, donner des PV, tout ça, blablabla, tout va bien. Et soudainement, il passe à côté d'une d'une voiture où il y a une petite fille qui fait tomber une poupée, hein, on va dire ça, ouais, bah oui, c'est une poupée, et d'un geste des plus incroyables, sans s'arrêter, là, il se penche avec sa moto, ramasse la poupée, puis il la ramène à cette fille qui est en fait la pire petite fille que j'ai vue depuis très longtemps, parce qu'en fait elle est pas gentille du tout. Elle est très agressive avec lui, elle rejette la poupée dehors, sa mère est genre c'est pas bien, faut pas faire ça, et Nick Cage genre bah non je comprends, c'est différent quand les enfants déménagent de chez eux et tout ça. Et soudainement sans aucune fanfare, voilà, sans fanfare, un camion arrive, rentre dans la voiture et cette voiture explose en comme ça. Genre, elle prend feu, elle passe de pas de feu à feu beaucoup en vraiment genre un demi microseconde, ce qui est pas comme ça que le feu fonctionne. Et Nick Cage essaye de sauver, Nick Cage, Edward Malus de son nom, qui est quand même un nom.
Bah oui, tu pars avec un.
Pardon, j'aurais pas dû rire autant.
Non, ça ne méritait pas.
Ça ne méritait pas, mais j'étais juste surpris. Je sais pas pourquoi j'étais surpris d'ailleurs. C'est
Et parce que j'ai pas fini que tu l'as fait. T'as découvert tout seul, ça.
Oui, ouais.
Ça participe au truc, quoi.
Et malheureusement, Edward Malus, n'arrive pas à sauver ni cette femme ni cet enfant, de mourir dans du feu. Ce qui le rend un peu chamboulé, quoi. Il est chamboulé par ça. Et quand une de ses collègues vient lui parler pour lui apporter son courrier, parce qu'apparemment il reçoit son courrier au poste de police et non pas chez lui, c'est ce que j'ai pas forcément compris. Lui dit,
moi je fais pareil, mais après c'est plus pour les colis Amazon.
Ben c'est ça, mais en plus c'est une lettre de son ex-femme, de son ex-fiancé, pardon, qui lui explique sa fille. Alors vous pouvez pas me voir, mais en ce moment je fais des quotes dans les airs avec mes doigts, parce que n'importe quelle personne qui a vu 3 films et demi sait c'est quoi le twist déjà. Mais je vais pas le dire pour les gens qui n'auraient vu que 2 films et demi, et vous le saurez peut-être à la fin, mais en gros, cette ex-fiancée lui dit « Ah, ma fille a disparu. Ma fille a disparu de mon île. Et j'aimerais beaucoup que tu viennes m'aider à la retrouver. Alors, on s'est pas vu depuis 15 ans. Je suis parti comme une voleuse alors qu'on était censé s'épouser. Mais est-ce que tu peux m'aider avec ma fille, s'il te plaît ?» Petit retournement de situation un peu bizarre, c'est que quand il regarde la photo de cette petite fille, elle ressemble étrangement à la fille qui a brûlé dans la voiture, mais en fait c'est pas vraiment elle, mais elle ressemble vraiment beaucoup à elle. Alors c'est bizarre.
Moi j'avoue qu'à ce moment-là du film j'étais perdu.
Ah, t'es paumé. Et c'est 5 minutes dans le film, hein. on est vraiment pas loin là.
Attends, mais son ex-femme, mais elle n'est pas morte dans la voiture.
Ouais, c'est
mais
ça.
Je comprends plus rien. Non, mais tu sais, en fait, du coup, la première scène avec cette histoire de voiture, je sais pas, elle est trop bizarre.
Elle a rien à voir avec tout le reste du film, en fait.
Déjà, bon, visuellement, elle est bizarre, mais en fait, c'est parce que c'est un rêve. Il s'en rappelle, quoi.
Ouais.
Mais je sais pas, en fait, t'as l'impression qu'elle est importante. Alors, bien sûr, elle est importante dans le sens, oui, c'est un flic qui a eu un truc traumatisant dans sa vie. En fait, pour expliquer un peu mieux expliquer pourquoi ce serait traumatisant, en fait l'idée c'est quand même que lui il est au milieu de la route quand il pour ramasser la poupée, et en fait le camion pour l'éviter va tourner sur la gauche, et c'est parce qu'il tourne sur la gauche qu'il percute la voiture. Donc je pense que dans un sens il se dit c'est de ma faute si elles sont mortes, parce que si j'étais pas au milieu de la route, le camion aurait pas eu à faire ça et du coup je serais pas morte. Donc mais ça j'ai pas compris tout de suite, c'est pour ça que je l'explique.
Non mais le camion il aurait pu juste stopper sinon, enfin je
sais pas, c'est complètement con le mec, clairement, parce que moi la première fois que tu vois en fait la scène, le camion il est là, il est en train de rouler, d'un coup il tourne en se disant je vais foncer sur la voiture, du coup vraiment t'as l'impression qu'il vise la voiture et qu'il veut tuer cette personne,
parce qu'il y a aussi un autre côté de la route, hein, où il aurait pu tout à fait passer de l'autre côté. Il y a pas de problème.
Waouh, essayer de freiner, je sais pas moi.
Non mais parce qu'en plus c'est que le camion il arrive vraiment nulle part, c'est à dire que il y a pas de camion.
Oui.
Nick Cage va sur au milieu de la route, puis soudainement il y a un camion qui a spawn. Puis genre, oh non.
Parce que sur des routes comme ça, oui, tu as le temps de voir à l'avance, quoi. Genre... il n'y a pas de virage.
Tu sais, c'est une grande route droite qui est vide, il n'y a personne. Le gars, il aurait pu le voir à 37 km et demi, là, tu sais, je veux dire. Enfin...
tout ça pour dire que le côté un peu traumatisant, en fait, c'est un peu bizarre parce que. Il est pas trop utilisé dans l'histoire plus tard, enfin je sais pas, c'est un peu bizarre. T'as vraiment l'impression que la scène est censée être hyper importante,
ouais.
Parce que ça vous la tue et tout, et en vrai pas tant que ça quoi. À part pour dire, eh, regardez, il est un petit peu triste dans sa vie, il va avoir, quand, ça va lui rappeler des souvenirs de cette fille, ouais, ok.
Puis il est pas enfin, consistant bon. Avec lui, ben, on en parlera un peu plus tard, mais
un peu bizarre,
ouais. J'ai pas consistant mais... avec lui-même du zéro, là, genre dans sa manière de... Ben, bref. On en reviendra.
Mais du coup, voilà, il décide d'aller sur l'île, effectivement, pour retrouver, porter main forte.
Oui, exact. À
c'est
Willow.
C'est une phrase qui existe.
Willow Woodward.
À Willow, et donc retrouver la fille. Donc, bon, là, il apprend qu'il n'y a aucune. Il n'y a pas le portable sur. C'est assez marrant, les scènes, parce qu'il apprend qu'il n'y a aucune communication. Il n'y a même pas vraiment de moyen d'accéder à l'île. Il est obligé de
prendre un avion.
De donner de l'argent à quelqu'un pour le convaincre de l'amener et tout. Mais ça. Il prend ça comme si c'était tout à fait normal et il se pose pas du tout la question, enfin, de se dire waouh, c'est peut-être un peu exagéré de partir comme ça, un endroit où je force pour rentrer, je sais pas comment on revient, j'ai pas mon téléphone, y a rien qui, enfin.
Est-ce qu'on peut parler vite fait de la scène où il rencontre le mec qui doit prendre l'avion? Bah, donc en fait il arrive à un endroit sur un petit port, on sait même pas comment il est arrivé sur ce port là. Il est juste
oui,
genre.
Il y avait beaucoup d'ellipses un peu. Ouais.
Bizarre, ouais. Il arrive sur un port, puis donc il y a ce mec-là qui est genre, bon bah, tu sais, moi j'emmène personne là-bas parce que, bah, tu sais, c'est une île privée. Voilà, le but c'est que c'est une île privée. Quand t'arrives là-bas, tu te rends compte rapidement que, bon, c'est un culte, quoi. Mais c'est une île privée. Ils ont leur propre truc, puis voilà, ils sont libres. Et on a le droit, je pense, au plus gros. Shift de personnalité que j'ai vu de ma vie dans un film où on passe de Danny Cage qui est genre quand même assez avec de la gravitas, qui est un peu triste d'avoir tué quelqu'un finalement, bah parce que comme tu disais, voilà, s'il pense que c'est de sa faute, à Assassin's Cage qui parle avec un vieil homme, mais de manière genre. Qu'est-ce qui t'est arrivé dans. C'est quoi, genre, pendant ton voyage en voiture jusqu'au port, tu t'es dit, ah, finalement, la vie c'est de la merde, c'est pas grave, advienne que pourra.
Je vais faire des petites blagues.
C'est super weird, là. Et il est, genre, il est tellement sassy dans ce film, c'est incroyable. Il. Genre, ouais. enfin.
Alors, sassy, c'est pas l'impératrice, hein, c'est pour dire que.
Oui.
Que, voilà.
Il est piquant, quoi. Il est.
Ouais, il fait des blagues un peu agressives,
voilà,
quoi.
Voilà, l'ironie lui passe par-dessus la. Bah, il passe pas par-dessus la tête. Et c'est. Tu sais, c'est. Enfin, voilà, quoi.
Mais. En fait, ce qui est bizarre, c'est que. Donc là, après, donc, le mec finalement accepte de l'amener et il arrive sur l'île.
Voilà.
Et là, il y a un changement d'ambiance tout de suite.
Oui.
Et en fait, le début du film, je trouve, il est vraiment mauvais. Il fait vraiment nanar. Et en fait, une fois qu'il est sur l'île, ça passe sur une ambiance plus enquête. Et là, je trouve que ça va mieux se tenir.
Ouais, mais
il y a des défauts.
Ça, ouais. Parce que le problème avec ça, c'est que par contre, aucune personne est capable de dire ses lignes comme il faut. Ça devient assez bizarre.
Ouais, c'est assez... c'est assez inconstant, effectivement.
Parce que
c'est assez. En fait, je ne sais pas si c'est ça, ou s'ils essayent, ils ont dit à chaque acteur.
Soyez bizarre.
Il faut que ton personnage, peu importe ce qu'il dit, il ait l'air louche.
Ouais.
Il ait l'air mystérieux. Il y a un peu de ça aussi.
Ouais, je suis d'accord.
Quoi qu'il arrive, même au niveau de l'image, au niveau du ton, je trouve que là, en fait, le début, il est vraiment très. C'est très mauvais, quoi.
Oui.
Mais, enfin, c'est vraiment bizarre. Ça fait très peur, en fait. Mais une fois que ça commence sur l'île. Ça va.
Mais c'est ça.
Limite, ils auraient pu commencer là, en fait. Franchement.
Mais ouais, mais parce qu'en fait, le début, c'est de l'espèce de foreshadowing au final. Mais,
ouais, mais qui sert
mais
pas à grand chose.
Pourri, quoi. Et c'est vrai que t'as raison, le film vraiment commence quand Nick Cage arrive sur cette île. Mais le problème aussi, c'est que la première interaction qu'il a avec les gens de cette île, un peu genre donne le ton sur tout le film, et cette première interaction est pour moi super bizarre quoi. Il arrive sur l'île et il parle avec genre trois femmes finalement qui lui disent, et la première chose qu'il fait c'est genre être super agressif à sortir une image et à dire ouais. Genre moi je suis de la police les gars, je suis de la police de Californie, les gens sont genre ouais déjà t'es dans l'état de Washington mec, t'as aucune juridiction ici là. Puis en plus cette île elle est privée. Puis le gars est genre, ouais, mais vous devez quand même, genre, répondre des lois de Washington.
Ouais, c'est un peu triste, c'est un peu le prof qui essaie de choper de l'autorité sur les élèves, mais ça marche pas, quoi.
Puis en plus, tu fais bien de parler de prof, parce qu'il est passé de je suis habillé comme un policier très, très carré, très machin, à j'ai une veste avec du tweed sur le bord de mes elbow,
sur les coudes,
ouais. Avec une cravate, je ressemble même pas à un détective, parce qu'en plus c'est pas un détective, hein, c'est juste un beat cop, là, c'est juste un policier sur le bord de la route, là, c'est même pas un détective, donc il a aucune autorité sur ces gens-là en fait, de un. Et ensuite, il ressemble à un professeur. Et il est super agressif avec tout le monde dès le départ. Il est super dans leur face en mode là. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe ici. On m'a appelé parce qu'il y a une petite fille qui a disparu et vous devriez prendre ça sérieusement. Et les gens sont juste genre, tu parles de qui ? Pourquoi t'es là ? Et ils sont super louches. Ils sont genre, vous avez vu cette fille ? Puis ils sont genre, non, on connaît pas cette fille, mais genre. Comme tu disais, ouais, ils sont tellement louches qu'en deux secondes, tu sais qu'ils l'ont déjà vue.
En gros, ils disent qu'ils connaissent pas la fille tout en exprimant via les expressions corporelles et au niveau du visage, on connaît cette fille.
Ouais.
Si tu voulais vraiment que le mec soit pas au courant, tu pouvais mentir. Non, là, l'idée, c'est qu'ils mentent tout en montrant qu'ils savent très bien et qu'il y a un truc louche pour que... Mais limite, c'est pour que le film avance et tout. Et moi, alors, c'est ridicule. C'est à la fois ridicule et à la fois, je sais pas, ça m'a fait marrer. Ça m'a fait penser un peu à justement un vieux film qui essaie de mettre l'ambiance louche et avec des comportements qui sont pas forcément rationnels.
Oui.
Tu sais, ou le méchant qui, enfin, c'est pas vraiment exactement ça, mais tu sais, c'est genre le méchant qui t'explique son plan, ou t'as un peu cette patine du où on essaye pas d'être réaliste dans les dialogues. On essaye plus de mettre une ambiance. Et là, ça me gêne, ce genre de truc, ça me gêne moins. Enfin, je trouve ça, je le regarde avec un œil un peu amusé, quoi.
Puis ce que je trouve absolument fascinant, c'est que genre, ok, t'es sur une île privée, right? C'est genre, à quel point ce mec est littéralement... Ça se voit que c'est pas un détective, parce que c'est vraiment le pire détective de tous les temps, parce que t'es sur une île, quoi. On est d'accord, t'es sur une île. C'est une île privée, là. Il y a littéralement... Il peut pas y avoir plus de 60 personnes sur l'île. Tout le monde connaît tout le monde, là. Tu sais, si quelqu'un a une fille, là, ils savent qui c'est. Il n'y a pas de. C'est pas les gens qui sont genre. Ah, et après, ils commencent à dire, ouais, la personne qui m'a appelé, c'est Willow Woodward. Puis tout le monde est genre, ah oui, Willow, on la connaît. Mais genre, apparemment, ils savent pas que Willow a une enfant. Enfin, ce film est
ouais,
super.
Ouais, j'ai trouvé ça bizarre aussi. Ouais.
Et bien sûr, ok. Seconde chose qui est extrêmement bizarre avec cette île et que tu vois extrêmement rapidement, c'est qu'en fait, il n'y a pratiquement que des femmes sur cette île. Et le oui. peu d'hommes que tu vois, ils parlent pas et ils sont très subservients.
Ouais, ils bossent. Quoi.
Et voilà. Et pareil, ils ont tous l'air louches et ils ont tous l'air super bizarres. Donc déjà, t'es là. Moi, je serais ce mec-là, j'aurais tellement peur parce que je suis genre, ok, je suis tout seul sur une île où il y a littéralement probablement tout le monde que s'ils avaient une chance de me tuer, ils le feraient. Donc je veux partir d'ici, mais tout de suite, quoi. Mais bon, non, pas lui. Parce
après,
que,
il a un flingue, donc.
Et il a son badge, ouais, bah... Et un vélo, apparemment, parce que c'est tout ce qu'il a. Enfin, bref.
Ouais, mais je suis moins pratique pour se battre, quoi, le vélo. Je peux fuir.
Et là, voilà, et on apprend, en fait, que cette île, elle est un peu dirigée par cette femme qui s'appelle Sister Summer Isle, je crois, dont on n'arrive pas vraiment à savoir. Et en gros, les gens lui expliquent que, bon, voilà, c'est une île où les gens ont une certaine manière de vivre. Ce à quoi, au début, ils s'en foutent un peu, parce qu'il est genre, bon, bah, tu sais, les gens, ils vivent bien de leur manière. C'est une île privée où ils vivent d'une manière un peu différente. Et finalement, il apprend en allant à l'hôtel du coin, ce que je trouve absolument... Ok, ça, c'est la pire chose. C'est la chose qui fait le moins de sens pour moi. On est sur une île privée. Une île privée où tout le monde a un appartement, une habitation, right? La première chose qu'ils disent à Edward, c'est une île privée, on n'accepte personne ici, jamais. Pourquoi ils ont un hôtel?
Une auberge.
Oui.
Ouais, enfin, Non, enfin, je dis auberge parce que c'est vraiment ça, quoi.
Oui.
Visuellement, c'est vraiment une auberge parce que, en fait, on l'a pas dit, mais oui, il y a une ambiance très moyenâgeuse, quoi.
Oui, c'est exact,
la façon dont les gens sont habitués, enfin, ils sont sur plein de trucs, quoi.
Un peu
Amish. Il y a pas de voiture.
Un peu Amish. Ouais, un peu.
Oui, c'est ça, c'est Amish. Mais en plus, ouais, cette scène, elle est marrante parce que, je sais pas, il y a des limites, t'es à la limite de la comédie à des moments et tu sais pas trop pourquoi il fait ça, le film.
Oui.
Parce qu'en gros, voilà, il arrive dans l'auberge, il se chauffe un peu avec la meuf qui, bah, tu sais, c'est clairement la personne qui veut pas que tu sois sur place, donc elle est un peu méchante avec toi, enfin, elle est un peu dédaigneuse et tout. Et après, au bout de, il lui dit une phrase et elle dit, bon, bah, si on est obligé, hein, si on doit, on va bien te trouver une place pour dormir et tout. Pourquoi elle avait pu juste pas refuser? Non, en fait, c'est ah bon, bah, vu que pour le film, il faut bien que t'aies un truc. Elle vrille en 5 secondes et elle lui dit, bon, bah, ok, bah, il y a une chambre pour toi.
Cette personne est jouée par une femme qui est un subset de Kathy Bates. Mais un mauvais subset de Kathy Bates. Il n'y a pas une seule de ces lignes qu'elle dit de bonne manière. Son visage est tellement stern. Mais je comprends, on lui a demandé de jouer un peu un personnage un peu...
Elle a un peu un sourire en coin des fois.
Ouais, mais tu sais, je comprends en fait la position qu'on lui a donnée. C'est-à-dire que tu sais, comme justement il n'y a pas d'homme dans cet univers-là, on lui a probablement donné ce rôle de personne un peu bourrue. Et donc, je sais pas pourquoi, mais ça passe vraiment pas. Et puis, ouais, à chaque fois que je la voyais, j'étais genre, je vois juste bootleg Kathy Bates, puis ça me dérange trop. Parce que au moins Kathy Bates aurait pu donner des lignes comme il faut, là. Ça aurait été beaucoup plus effrayant. Mais cette femme-là est pas effrayante pour un sou, puis elle est genre, tu la vois. Puis elle est louche, mais elle est louche, quoi. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi louche de ma vie. Et pourtant, on a croisé genre la moitié du village qui est genre vraiment, vraiment louche. Mais elle, puis bon, elle explique aussi à Edouard que le gros de leur île, probablement leur exportation, puis comment ils se font de l'argent finalement, c'est le miel, le miel local. Et il est quand même arrivé à un moment qui est assez sympathique parce qu'ils vont bientôt avoir une espèce de fête pour la récolte ou je sais pas quoi. Et ça rejoint un peu ce que tu disais, c'est-à-dire pourquoi est-ce que tu irais dire ça à quelqu'un que t'as vraiment envie qu'il se barre? Tu sais, c'est genre...
Ouais, non, mais il y a plein de trucs. Ou juste, il y a plein de trucs où les différents personnages vont encourager un peu sa quête. Après, en vrai, c'est logique par rapport à l'histoire.
Oui et non, non, c'est parce que on peut pas vraiment en parler maintenant sans spoiler le film.
Limite, ce qui est pas logique, c'est qu'ils lui disent qu'ils veulent pas de lui.
Oui, c'est ça. Voilà, exact. Il devrait l'accueillir.
En fait, ce qui est bizarre, on va dire, c'est la contradiction entre on te dit, on te repousse, on dit que tu en veux pas de toi, et en même temps, bon voilà, on va te donner des indices pour que tu restes. Mais c'est peut-être pas si logique, quoi. Enfin, bref. Donc, voilà. Donc, on a... je sais plus. Je suis un peu perdu l'historique des scènes. Mais on va dire que t'as Nicolas Cage qui mène sa petite enquête. Donc, il va croiser Sister Rose, par exemple, qui est la maîtresse qui s'occupe des enfants de l'île.
Oui.
Voilà, qui leur apprend des choses. Bon, avec une petite scène assez marrante où...
s'énerve sur les enfants, moi c'est ça qui fait plus
rire. Non, ouais, bah ça oui, mais surtout elle est en train de leur apprendre quoi quand il arrive, je sais plus, mais un truc genre, je sais plus, mais genre le patriarcat c'est mal ou je sais plus, c'est un truc comme ça. Oui, ouais. C'est assez marrant.
Et lui il rentre là-dedans, je sais que c'est vrai que c'est assez drôle parce qu'il y a vraiment le contraste entre, bah tu sais, cette femme qui est quand même assez posée,
lui, elle fait une petite
droite, et qui est genre en train d'expliquer, bah voilà, en fait les hommes ils servent à quoi? Bah les hommes c'est juste phallique, en fait ils servent à rien d'autre que juste amener leurs semences finalement.
Et, oui,
et puis t'as l'autre qui arrive là-dedans et qui commence à gueuler sur les gens et qui explique genre...
Non, il fait une petite blague, ouais, mais... en arrivant il fait c'est pas ce qu'on m'a appris à l'école.
Oui, voilà. Non mais tu sais, c'est juste genre, c'est, si tu veux prouver ton point, genre si tu veux prouver ton point que les hommes sont pas une bonne chose, t'as juste envoyé Nick Cage faire ça, parce que moi là je serais une fille, je regarde, je vois ce mec là qui arrive, qui fait sa blague et qui commence à être genre, regardez, j'ai un badge les gars, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai une autorité sur vous et vous devez m'écouter. Et ouais, ok, très bien, moi aussi je déteste les hommes maintenant.
Bon, après, c'était peut-être un peu l'idée du film,
oui, hein. Je pense, mais oui, mais c'est juste super drôle parce qu'il rentre là-dedans avec cette énergie qui est tellement genre, tout le monde est genre super calme, puis lui il a cette énergie tellement frantique qui rentre et qui est genre pourquoi est-ce que ce tu sais, il passe une photo, donc il passe une photo de
Mais il a des sautes d'humeur qui sont un peu bizarres,
ouais. Oui. Bah, non, mais il est weird dans ce film. On dirait que c'est pas ce qu'il veut. Hein. Il
passe c'est vraiment le prof qui essaie d'appuyer son autorité et que du coup se sent obligé de temps en temps de mettre un petit coup de gueulant pour faire croire que, voilà, que c'est lui le patron et que tout le monde regarde un peu. Tu sais, quand il fait ça, les gens regardent au ciel en disant oui, bon, allez. Ils le laissent parler et puis après, voilà.
Ouais, c'est un peu vrai que plus t'avances dans le film et plus tu te rends compte que c'est normal, mais t'as vraiment l'impression que les gens sont juste en mode. On est obligé de put up avec sa shit, genre on est obligé de le laisser parler et on est genre en mode ok oui très bien t'as raison parce qu'il faut
mais
il
oui,
faut qu'il
étoile patron
tu sais genre c'est super weird là. Mais
donc oui voilà, donc quand il est dans l'école, donc il découvre donc qu'il y a un des bureaux où il y a plus personne parce que bah tout le monde lui dit que la fille elle existe pas, mais bon là, il trouve ça louche. Après, il regarde dans le registre de l'école et il découvre qu'il y a bien son nom dans le registre et qu'elle est barrée, quoi. Donc, après, t'as Sister Rose, justement, donc, la maîtresse qui lui explique. Alors, elle lui dit quoi ? C'est là où il dit qu'en fait, la fille existe, mais qu'elle est morte.
Ils sont genre, ah, en fait, on n'en parle pas parce qu'elle est morte. Et donc, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Et donc, c'est pour ça
que
personne se rappelle de cette fille-là. Parce que chez nous, quand les gens ils meurent, ben, on les oublie, quoi. Ils n'existent plus. C'est n'importe quoi.
Parce qu'ils sont dans la nature, ils repartent dans la nature. Voilà. Oui, c'est l'explication la plus louche du monde, quoi.
C'est n'importe quoi. Puis, genre, ils sont là, ouais, genre, et comment elle est morte ? Eh ben, elle va brûler. Et t'as l'autre, t'es genre, quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Et là, elle est genre, non, elle a brûlé. T'es genre, comme si c'était genre, she'll burn, elle va brûler. T'es genre, le gars, il est genre, quoi, tu viens de dire quoi ?
Il faut que je sorte une phrase louche.
Ouais, c'est ça, c'est genre. Ta-da-da, foreshadowing et tout. Puis t'es genre, oh mon dieu. Oh, c'est il te livre ça, genre, mais. Je sais pas, c'est livré avec Amazon le même jour, quoi. C'est genre dans ta face. C'est n'importe quoi. C'est. Oh,
En même temps, voilà, tout a une logique après dans le film. C'est le principal problème, c'est que du coup, Nicolas Cage, son personnage, qu'est-ce qu'il est con.
Ah ouais, non, mais c'est le pire détective de tous les temps, quoi.
Mais après, ils l'ont peut-être pas choisi au hasard non plus.
Oui, mais en même temps, je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils ont fait cette scène au début, pour te montrer que c'est pas un détective, quoi. C'est pas une lumière, c'est juste un mec qui, genre, donne des PV à des gens sur le bord de la route, là. Donc, ouais. C'est ça. Et puis, après, juste après ça, il y a la scène, la pire scène que j'ai vue de ma vie, parce que même après le film, je ne la comprends toujours pas. C'est-à-dire que, bon, en gros, là, la femme lui dit, ok, bon, où est-ce qu'elle est enterrée ? Moi, je veux voir son corps, là. Dis-moi où est-ce qu'elle est enterrée. Puis là, elle lui dit, ok, bah, il y a un cimetière par là-bas, vous pouvez y aller. Donc là, Nick Cage, il est genre, ok, très bien. Puis il commence à y aller. Et il marche dans les bois. Et là, il arrive au milieu des bois. Et il voit des gens qui sont en train de déplacer des trucs, je crois. Tu sais, commencer à déplacer du bois. Clairement, ils vont construire quelque chose.
Et ouais, là, ils sont dans des préparatifs. Quoi.
Et là, il y a une femme au milieu qui se retourne. Et c'est littéralement Sister Rose, en fait. Hein. C'est la même femme à qui il vient de parler. C'est la même actrice, en tout cas. Et là, elle lui dit, mais vous n'êtes pas Sister Rose, vous n'êtes pas la personne à qui je viens de parler. Puis elle est genre, non. C'est tout.
C'est la scène.
Et c'est jamais expliqué. On ne sait pas qui c'est. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment la pire
pour
scène
moi,
au monde.
Pour moi, en fait, je sais pas si c'est ça, mais en fait, il y a un peu plus tôt dans le film, il dit, sister, mais vous êtes sœur ? Et elle répond, non, on dit sister, mais on a aucun lien de sang entre nous.
Oui.
Et en fait, du coup, cette scène où il y a une fille qui lui ressemble, et du coup, tu te dis, bah, c'est sa sœur jumelle, ça aurait tendance à dire que c'est pas que ça contredit ce qu'elle a dit avant, en fait. Je pense que cette scène-là sert à ça.
Mais Le truc, c'est
à quoi ça sert vraiment ? Je ne sais pas.
On nous montre aussi un peu plus tôt qu'il y avait deux jumelles sur l'île. Deux jumelles super creepas,
oui,
les pires jumelles
début,
au monde.
Ouais.
Là. Vous les avez toutes vues,
oui,
en fait.
Bah, c'est jumelles, quoi.
Les jumelles creepy, vous savez c'est lesquelles, elles existent. Elles ont toujours été
bah,
creepy.
Oui. Les jumelles dans les films où ils essaient de te faire un suspense,
voilà.
Et tout. Bon, bah, voilà, quoi.
Et du coup, tu commences à te demander, et surtout parce que il y a les deux jumelles, il y a le fait que la fille qui a brûlé dans la voiture au début ressemble beaucoup à Willow, à Rowan. que tu commences à te demander...
Bah ça, j'ai pas forcément tilté, j'avoue, mais...
Bah, tu sais, moi, dans ma tête, je commençais à me dire, ah, mais en fait, peut-être que sur cette île, c'est que des jumelles. Tu sais, du coup, c'est pour ça aussi que certaines personnes ont l'air sympathiques à un moment, puis qu'ensuite, elles le sont pas. Mais en fait, non. Non, non.
Je sais pas si... En fait, c'est un peu le Lost... ouais. Dans le sens où en fait
il
pose des trucs pour créer une ambiance, mais ça veut pas dire qu'il a forcément envie d'y répondre. Lui il fait des trucs l'ambiance pour l'ambiance, quoi, que ça soit logique, que c'est pas important,
mais
donc, pour lui
c'est pas forcément mal, et t'as pas besoin d'expliquer tout, mais il y a des fois où t'es juste ok, c'est juste
c'est juste que cette scène en l'occurrence, en fait c'est un peu comme la première scène, elle est filmée d'une façon où tu te dis ça a une importance.
Oui, voilà.
Alors qu'en fait, non. C'est ça qui est un peu bizarre. Mais après, oui, tu sens que voilà, il y a des choses qui sont là juste pour participer à la mise en place d'un univers un peu creepy, quoi.
Et donc là, il arrive justement dans le cimetière et il voit justement qu'il y a un endroit où qu'a l'air d'avoir une tombe qui est fraîche où la terre a été retournée. Et au même moment, comme ça, comme par magie, il y a Willow qui arrive là. Alors, je sais pas pourquoi, mais Willow, elle se balade sur l'île, puis elle va souvent dans le cimetière, apparemment. Aucune raison. Et il voit qu'il y a une cage. Et Willow commence à lui expliquer qu'il faut qu'il fasse attention à tout le monde, parce qu'ils vont clairement essayer de faire croire que Willow, elle est folle. Alors que, tu sais, toi, en tant que spectateur, là, il n'y a que Willow qui a l'air à peu près correct.
Normal. Donc, déjà, ce que j'allais dire, en fait, ce qui est bizarre, en fait, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais j'ai l'impression qu'elle est éclairée différemment. Tu sais, c'est pas juste. Alors, son aspect physique, elle a un aspect physique avec un visage plus. Enfin, moins bourru, enfin, qui l'écarte un peu du reste. Après, sa première apparition, où elle s'exprime de manière. Elle utilise l'expression de la ville, il y a un peu ça. Enfin, sa première apparition où elle est du côté du personnage de Nicolas Cage fait que tout de suite, tu t'as envie de la croire. Mais ouais, il y a aussi un peu la façon dont... Je sais pas si c'est la façon dont elle est habillée, ou peut-être elle a des vêtements moins sales, ou je sais pas.
Elle est filmée, éclairée différemment.
Elle est éclairée différemment.
Alors c'est vrai, on l'a pas forcément expliqué, mais c'est parce qu'à un moment, on apprend en fait que cette fille-là, elle est née sur cette île-là, puis qu'elle est partie dans la ville, elle a rencontré Nick Cage, ils se sont mis ensemble, ils sont devenus fiancés, et ensuite elle s'est enfuie et elle est retournée sur l'île, et Nick Cage n'arrête pas de lui demander, il comprend pas pourquoi en fait, il est genre mais pourquoi est-ce que t'es revenu dans cet endroit où tout le monde te bérate, tout le monde est vraiment méchant avec toi, et là elle est genre ouais mais la raison pour laquelle ils sont méchants avec moi c'est parce que je suis parti, tu vois, et t'essayes de comprendre un peu ce truc là, donc t'as l'impression qu'elle est paria, et du coup ben, c'est con à dire, mais ça marche plutôt bien le fait que tu relates à Willow assez rapidement, parce que finalement tu te dis ah ok, la pauvre, la seule personne à qui elle peut faire confiance ben, c'est Edward, et Edward, la seule personne à qui il peut vraiment faire confiance, c'est Willow. Et ce, pour être honnête, après, c'est quelque chose qui marche, c'est cette espèce de lien, genre.
Après, en fait, ce qui est bizarre, bon, il y a aussi y a une logique, ça, etc. Ouais. Et tout, mais c'est que, en fait, ça, je trouve que c'est pas trop montré par les actes, dans le sens où les autres femmes de l'île ne sont pas forcément agressives envers Willow quand elles sont présentes, quand elles interagissent entre elles.
C'est vrai.
C'est juste. Il y a juste histoire de filles et de machin, mais sinon, tu le ressens pas, quoi. Et après, juste pour revenir sur ce que je disais, la façon dont elle est éclairée, j'ai l'impression que. Et puis, il n'y a pas que ça, mais tu vois, par exemple, le fait que là, tu disais, elle apparaisse comme ça d'un coup. J'ai l'impression que Willow, t'as l'impression que c'est une espèce d'apparition fantomatique. Tu vois, elle apparaît d'un coup, tu la vois jamais en train de faire des choses, enfin, tu sais, de faire des tâches. T'as l'impression que juste, elle erre sur l'île comme ça, comme un fantôme.
Oui.
Bon, ça marche.
Oui, puis qu'elle apparaît d'un point de vue. C'est ça que je disais, tu sais, qu'elle marche et qu'elle va dans le cimetière, que ça lui arrive.
Et des fois, elle disparaît pendant des périodes du film, et où il la cherche. T'as l'impression que, tu sais, quand il. Tout si tu penses au pire, tu te dis putain, ils l'ont enfermé ou je sais pas quoi. Puis 5 secondes après, elle réapparaît comme ça. Enfin, c'est vraiment une apparition. Tu pourrais. Le twist pourrait être que cette personne n'existait pas, ce twist, tu aurais cru, quoi.
Alors là, on va rentrer un petit peu justement dans le côté spoilery un peu du film.
Ouais, bon, il reste un peu de temps quand même.
Il reste un peu de temps, mais là, on va avoir le gros spoiler Bah non, en fait, soyons honnêtes, n'importe quelle personne qui a vu le film 3 minutes sait exactement ce qui va se passer.
Ouais, je pense que là où ça part, il y a un virage qui peut être intéressant de prévenir, c'est un peu plus loin. Pour l'instant, on est encore dans le déroulé un peu logique de l'enquête, quoi.
Bah, c'est, en gros, là, il est en train de parler avec Willow et Willow lui explique que... Ah, on le savait tous, là, que...
Bah,
que Rowan, c'est sa fille, quoi. On le savait. Tu le sais au bout de 3 minutes dans le film, quoi.
Mais même lui, il a l'air de le savoir. Fin...
Et lui, il a l'air un peu complètement. Il n'est pas heureux, quoi. Ça lui fait pas plaisir. Et il s'énerve un peu. Il demande à Willow de partir, ce qu'elle fait. Et là, alors, j'arrive pas à me souvenir si c'est maintenant ou plus tard où il déterre la. Il creuse dans la. Non, c'est avant, c'est ça. Oui, non, c'est un peu avant. Il creuse dans la tombe
avant,
et il voit une poupée qui est brûlée. Ce
oui,
qui
justement,
lui rappelle le début. D'ailleurs, il s'énerve. On a le droit.
Ils ont dit qu'elle a brûlé, machin et tout.
On a le droit à une des meilleures scènes de Nick Cage qui s'énerve, genre. How did it get burned?
Il engueule Willow. Tu te dis mais pourquoi tu t'énerves encore une fois? C'est vraiment, il a des aspects de colère à des moments où ça ne sert pas, quoi. Et je pense que dans la vraie vie, les mecs en face, ils doivent se dire « Putain, mais qu'est-ce que
c'est ça, le caméraman ou le perchiste qui devait être là, que genre « Mais est-ce qu'on va garder ça ?»
C'est... Voilà, c'est vraiment le mec lourd, quoi.
Et une fois de plus, ils essayent de te rappeler au début qui, on vous le rappelle parce qu'on vous l'a déjà dit, ne sert à rien.
C'est genre... Ouais, c'est vraiment rajouter du symbolisme pour rajouter du symbolisme, là.
Et voilà, et donc voilà, là où Willow lui explique que Rowan, c'est leur fille à eux, ce qui, étonnamment, donne à Edward encore plus envie de sauver sa fille, ce qui, alors qu'il était déjà...
C'est pas étonnant, ça, normalement.
Non, mais quand je dis étonnamment, c'est parce que, enfin, pour moi, il était déjà quand même super investi à l'idée d'aller
oui.
de la sauver. Puis,
mais
coup,
c'est pour ça que je dis qu'on a l'impression qu'il était déjà un peu au courant, quoi.
Oui. Bah oui, probablement, hein. Même si à un moment il parle avec Willow et qu'il est genre « Ah oui, t'as probablement rencontré quelqu'un après moi, blablabla. » Puis t'es juste genre... Toi t'es là devant ta télé, t'es juste genre « Mec, t'es vraiment le pire détective de tous les temps. » C'est genre, ouais. Vous dire, ça prend pas... « Oh mon Dieu, elle a quel âge cette fille ?»« Elle a 7 ans. »« Ah, et quand c'est que t'es parti de chez moi ?»« Il y a 7 ans. »« Ah, t'as rencontré quelqu'un d'autre entre-temps, hein ?» Juste après qu'on soit sorti. Putain, le mec, quoi, basic math, c'est peut-être pas pour lui. Quoi. Mais enfin, bref. Donc là, il essaye. Lui, il veut absolument appeler la police, quoi. Il veut retourner à l'avion pour pouvoir utiliser la... Parce que la radio, c'est la seule radio qui fonctionne dans l'avion, en fait. Mais malheureusement, quand il arrive là-bas, l'avion est à moitié pété, la radio est détruite, et... mystérieusement, le pilote a disparu après qu'il ait eu des remarques des filles que ils allaient devoir avoir une conversation avec le pilote parce qu'ils ont laissé venir quelqu'un sur l'île. Soit dit, alors que, une fois de plus, on le rappelle, ils veulent pas que Nick Cage soit là, mais en même temps, ils veulent un peu qu'il soit là. Donc cette scène ne fait aucun sens pour moi. Absolument aucun sens. Mais bref. Parce que, bien sûr, Nick Cage découvre que le pilote, malheureusement, a décédé. Et ça part en couille. Et... Attends, quand c'est qu'il se retrouve chez Summer Isle ? Je sais plus.
C'est entre, mais en fait, ils ont une petite conversation où justement, c'est avant, en fait, c'est quand il lui demande s'il a le droit d'exhumer le corps.
Ah, c'est vrai, oui.
Et c'est là où tu te dis, donc s'ils veulent pas, donc elle va lui dire non, et elle dit... Oui, ok, bon, d'accord.
Ah ouais. Et après, il ramène un vélo. Ce vélo, ça, c'est genre... Oui. Ils ont clairement un vélo, puis tout le monde se partage ce vélo. Là. Parce qu'ils ont tous le même vélo, et ils le prennent tous tout le temps.
Oui. Parce que justement, là, on va arriver au moment où...
Ouais.
Alors, je sais plus exactement comment c'est exactement, mais en gros, là, donc, les préparatifs du festival sont finis. Donc là, lui, ce qu'il va faire, c'est que il commence à sentir un peu qui va se passer. Le point le plus important va être lors de ce festival. Donc il décide de se pointer.
Parce que c'est ça, on n'en a pas vraiment parlé, mais en fait, tout le truc louche que les gens arrêtent pas de lui dire, c'est que c'est pour lui mettre dans sa tête à lui l'idée que ils vont brûler Rowan parce que ils pensent que s'ils la brûlent, ça va faire une meilleure récolte. Et c'est juste ça qui se passe. Et là, on va rentrer dans le spoiler zone. Donc, je pense qu'on devrait
Je vais juste un peu avant.
Oui, vas-y.
Donner le point où on va arriver, en fait.
Exact.
Donc là, il décide de. Donc là, il est déguisé dans un costume d'ours.
Après qu'il met un taquet à la femme.
Ah oui. Qui, incroyable.
Celle
qui tient l'auberge, là.
Ouais, il met une patate. T'as taqué.
Patate de four. Hein.
C'est assez incroyable à regarder.
J'ai éclaté de rire, évidemment, dans cette scène, parce qu'elle vient, tellement de nulle part.
Ah ouais,
meuf, elle tombe, il y a un son, on a vraiment l'impression que c'est Tintin.
Ah ouais, c'est tac, elle tombe par terre. Il y a une autre fille qui saute sur Nick Cage, le dos de Nick Cage. Il la chope, il la retourne, met un autre taquet, elle tombe contre le mur, c'est fini, genre. C'est...
incroyable.
Les gars, c'est Wasabi, quoi. Je sais pas, pour ceux qui ont vu Wasabi avec Jean Reno.
Mais... oh putain, Jean Reno et machin Muller.
Michel Muller, qui est un film que j'aime vraiment beaucoup d'ailleurs.
Ah oui, je l'ai vu. Je l'ai vu quand j'étais gamin, je l'ai vu peut-être 20 fois.
Ouais, quand il m'a attaqué, là, que genre les gars ils s'envolent, bah c'est ça. C'est la même chose.
Bref. Ouah, c'est dur ça. oui, donc il est déguisé en ours,
oui,
et donc il arrive sur le lieu du festival, et donc là il se retrouve effectivement face à Rowan attaché à un arbre sur le point d'être brûlé, et c'est là, je pense,
qu'on va parler du
qu'on peut s'arrêter.
Spoiler zone.
Qu'on va entrer dans la spoiler zone.
Donc
Bon, pour ceux qui veulent se garder le suspense de la fin du film, s'il en reste un,
on va vous donner.
Je pense que oui. Je pense que oui, on n'a pas tout dit.
Non.
Donc, on vous propose d'avancer un peu. On vous dira jusqu'à quelle minute avancer. Comme ça, vous pourrez vous garder la surprise.
Ici le Julien du futur qui vous parle. Nous allons entrer dans une zone de spoiler. Mais pas d'inquiétude, je suis là pour vous accompagner. Merci d'avancer de 10 minutes dans l'épisode si vous voulez garder la surprise de cet incroyable twist de fin. Attention, ça va repartir dans 3.
Donc, écoute, je te laisse mettre le premier pas dans cette spoiler.
Tu me laisses le spoiler. Oh, c'est magnifique. Donc, voilà, comme tu disais, Edouard est dans un costume d'ours, qui est déjà, je trouve ça absolument incroyable, et il voit Rowan attaché à un bout de bois, et clairement, ça ressemble à un sacrifice, quoi. De loin, ça ressemble. En plus, il parle avec Willow en lui disant « Ah, t'étais censé m'attendre. » Et la première chose qu'elle lui dit, c'est genre « De quoi tu parles? Il fallait que je sois ici. » Et c'est la première fois qu'elle est vraiment louche, en fait. Aussi, tout le monde est là. Donc, il y a Sister Summer's Eyes, il y a Sister Rose. On n'en a pas aussi parlé, mais il y a le docteur. Qui est là, bon, tout le monde est là, tout le monde est prêt, tout le monde semble vraiment être là pour brûler Rowan. Et donc, lui, il y va en mode, je marche sur le côté, je me dirige vers Rowan. Tout le monde pense que, bien sûr, c'est la tavernière. Ouais. Et même chose, il met un taquet à quelqu'un, découpe, il enlève les liens qui attachent Rowan, et il commence à courir avec elle dans la forêt, et tout le monde est en mode
t'inquiète pas, t'es sauvé,
arrêtez-le. Et donc il court avec elle dans la forêt, et bon, après quelques péripéties où il finit par enlever le costume d'ours et tout ça, ils finissent tous les deux par sortir de la forêt, et là, qui c'est qui les attend? Absolument tout le monde. Et Rowan court vers sa mère et Sister Summer Isle. Et c'est là qu'on apprend aussi que Willow est en fait la fille de Sister Summer Isle.
Ouais, bah c'est ça. Bah, du coup, il y a la Sister Summer Isle qui à ce moment-là dit eh bien, merci Rowan de nous avoir ramené, je sais plus comment il s'appelle, Malus là.
Ouais, Malus.
Edward Malus, parce que bah voilà, donc c'est au final nous ce qu'on voulait, notre objectif c'était ça. Donc effectivement là qu'il lui dit, elle parle à Willow, elle lui dit ma fille, ou non, ou c'est l'inverse, c'est Willow qui dit mère.
Un des deux. Là.
Avec ce moment où t'as Edward qui se sent obligé de dire mais c'est ta Merde. Je dis, oui, bah, ils viennent de le dire, on avait compris, on n'est pas débiles, merci d'appuyer. Enfin, bref, voilà, quoi. Donc là, maintenant, c'est le moment où il lui explique le plan des méchants. Hein. Yeah. Il explique que, voilà, que ça fait que son sort a été jeté depuis des années, que c'était prévu, en fait, voilà, que ça a toujours été prévu, en tout cas, il a toujours été abordé par Willow dans le but de ramener... de le ramener sur l'île pour qu'il y ait un sacrifice.
En gros, ce qu'ils expliquent, c'est que en général, tous les 10 à 15 ans, ils ne savent pas forcément quand exactement, mais en gros, ils savent qu'à un moment ou à un autre, il y aura une saison où le miel ne sera pas aussi abondant. Donc, ils ont mis en place cette espèce de safe fell qui veut qu'ils vont sacrifier quelqu'un l'année d'après pourrait avoir en fait du miel en abondance. Et il s'avère que voilà, Willow a été envoyé jeune pour trouver un policier, ce qui est apparemment important pour eux.
Oui.
Pour avoir une enfant avec, et que le jour où ils en ont vraiment besoin, ils le font venir sur l'île et techniquement ils le sacrifient.
Voilà, c'est ça. Donc là, il y a tout le monde qui se jette sur Nicolas Cage. Forcément il est tout seul, donc il se fait assez rapidement maîtriser, donc là il se fait c'est assez vénère, donc là il lui casse les jambes, il le torture avec les
abeilles,
la fameuse
on en a vraiment pas parlé parce que c'est quand même con, c'est moi je trouve que c'est la chose la plus conne au monde, c'est que ce mec là est allergique aux abeilles.
Oui, il le dit au début.
Voilà, il le dit au début et il va sur une île où leur première exportation c'est du miel et des abeilles de partout.
C'est ça qui clairement, on sait qu'il ne s'est pas du tout renseigné avant d'aller sur l'île. Donc,
mais bon,
il est vraiment allé la main dans les poches, quoi.
Ah, on a,
donc effectivement, donc là, il le torture avec les abeilles. Donc c'est la fameuse scène.
Voilà.
Bise,
qui va clairement être notre snippet d'entre intro
une,
et
une
épisode.
Scène que moi personnellement, j'ai jamais trouvé digne d'apparaître dans les moments les plus Cage-esque, on va dire.
Ouais.
Je trouve qu'il ne surjoue pas plus que ça dans cette scène. Enfin, et comme un mec qui se fait attaquer par des abeilles alors qu'il est allergique, bah oui, tu vas gueuler, quoi.
Et d'après l'association américaine des beekeepers, cette scène est une des scènes les plus factuelles au monde en ce qui concerne des guêpes qui attaquent des gens. Et j'ai trouvé ça intéressant à dire.
Oui, mais par rapport aux abeilles.
Par rapport aux abeilles, voilà.
T'as dit guêpes, moi aussi.
Ah oui, excuse-moi, oui. Bah oui,
moi aussi, j'arrête pas de dire guêpes, j'ai du mal avec
par rapport
la
aux
traduction,
abeilles.
Mais les guêpes ne font
et
pas de
miel. Apparemment, ces gens-là envoient des lettres à la société de production souvent pour leur dire bravo, vous avez fait un bon travail. Et moi, j'aime ça quand les gens font du bon travail.
Ça a dû leur faire plaisir. Oui, sachant que les gens qui ont fait du bon travail sur ce film, il n'y en a pas tant que ça. Donc...
pardon,
mais le mec qui gérait ça, ils n'ont pas dû recevoir beaucoup de lettres d'autres associations, quoi.
Les associations des policiers énervés.
Les associations des scénaristes, déjà. bref. Donc voilà, donc ils le traînent au centre de l'immense, le fameux dieu en osier, dieu d'osier, donc une statue en bois, voilà,
qui
est assez énorme. Ouais. Et oui, ça se tient.
Mais qui est genre de 40 mètres de haut avec des chefs de partout punis au top, genre.
Oui, écoute, comme pour ceux qui ont vu Midsommar.
Oui.
Donc il le place à l'intérieur et puis
il le brûle.
Élément très symbolique, c'est Rowan qui va mettre le feu elle-même au. À la figure en osier, donc dans une scène, j'ai trouvé ça une petite touche sympa, moi.
Ouais, avec Nicolas qui hurle dessus et qui dit oh, ouais,
c'était assez réussi là, avec ce plan assez lointain où tu vois la petite fille qui hésite pas une seule seconde à foutre le feu à son daron.
Oui.
Après, j'ai envie de dire que c'est la fin de Nick Cage.
C'est la fin
de tournage.
Tout à fait.
Pour Cage.
Puisqu'il
mais
brûle.
C'est pas la fin du film parce que on a un petit snippet de fin de film où on a qui est pas si inutile parce qu'on quand même on a l'apparition de d'un très jeune James Franco.
Voilà. Et on le rappelle, c'est après que Nick Cage l'ait dirigé dans Sony. Après, donc,
que Nick Cage l'ait révélé aux yeux du monde, on peut le dire.
C'est donc la deuxième fois que Nicolas Cage demande à James Franco de venir participer à un mauvais film. James Franco doit pas être content.
Ouais, là, je sais pas si c'était de sa faute, mais mais oui, donc on le retrouve donc parce qu'on est dans un bar de la ville, de la grande ville, c'est 6 mois plus tard.
Ouais, c'est 6 mois plus tard.
Ah oui, mais ça ne marche pas du tout. Alors j'ai pas compris du coup.
Pourquoi?
Je vais expliquer ce que j'avais compris.
Ok, d'accord.
En fait, c'est un détail, mais donc il y a deux flics qui sont pas en patrouille là, mais qui vont boire un coup dans un bar, quoi.
Ouais.
Et qui vont par eux-mêmes accoster deux filles. Et il se trouve que ces deux filles sont des filles de Lille. Et on comprend assez nettement que les mecs vont être les prochains sur la liste, quoi. Ouais. Sauf que moi, donc il y a une des filles qu'on avait déjà croisée sur Lille. Et en fait, l'autre fille, moi, je pensais que c'était genre Rowan qui avait grandi.
Non, c'est on a aussi croisé sur l'île.
Ouais, mais en fait, là, je suis en train de lire en même temps Willow. Et ils disent qu'il y a Willow dans les deux.
C'est Willow, oui.
Mais je ne l'ai pas reconnu.
Parce qu'elle a des cheveux un peu bouclés maintenant.
Mais je ne l'ai pas reconnu du tout. Je pensais que c'était une autre.
Non,
en fait, je trouvais ça marrant. Je me suis dit, c'est Rowan qui a grandi. C'est sympa, quoi. Ça se passe longtemps après. Mais en fait, ça se passe tout de suite après, quoi. D'accord.
Okay. Ouais, parce qu'il faut le temps d'avoir les 7 ans et tout ça, là.
Oui, enfin, c'est 9 mois, gamin. Ah, 7 ans.
Il faut bien qu'elle passe un peu de temps avec lui, ensuite qu'elle tombe enceinte, qu'elle retourne, et après il y a 7 ans, donc ouais. Tu sais, ça prend le temps. Là.
Pas très efficace, moi, je trouve, ces gens. Mais voilà, donc on finit sur une fin ouverte où, en gros, l'histoire continue, quoi, les méfaits vont continuer. Et c'était The Wicker Man.
The Wicker Man, de Neil LaBute.
Alexis, alors ce premier visionnage.
Ah, c'est quelque chose, en fait. Je vais pas y aller par quatre chemins, c'est un mauvais film. C'est un mauvais film. Je suis d'accord avec toi que c'est pas aussi pire que ce que les gens en disent. Mais je pense que c'est parce que nous aussi, on a un peu cette espèce de sadisme incroyable de s'amuser en regardant ce genre de film-là.
Je pense qu'il y a aussi le côté film un peu de film de genre, on va dire, où on lui autorise un peu plus de trucs. Qu'on n'autoriserait peut-être pas à d'autres types de films, quoi.
Et ça rend ce film, pour moi, c'est pas le plus grand des nanars, là, mais ça rentre dans cette catégorie-là, quoi. C'est un film où, quand tu regardes ce film, j'étais estomaqué à chaque minute. C'est quoi le choix c'était quoi ces choix, non seulement à Nick Cage, mais aussi à Neil LaBute. Alors, c'est un peu ce que je disais au début, c'est le Midsommar du pauvre, parce que Midsommar est genre
justement,
super bien foutu.
Juste pour rebondir là-dessus, de manière courte,
oui.
Midsommar, par exemple, dans Midsommar aussi, il y a des mecs qui sont louches.
Mais c'est bien
clairement
fait.
Dans leur façon. Hein?
Mais le truc, c'est ça, c'est qu'à aucun moment, le film essaye de te dire qu'il va se passer... En fait, c'est ça le truc, c'est que dans Midsommar, tu sais qu'il va se passer quelque chose. À aucun moment, personne te dit... le film n'essaye pas de te faire croire que c'est quelque chose de bizarre. Alors que Wicker Man...
Ah, il choque un peu de ça. Il fait un peu partie du style de film. Sauf que le problème de Wicker Man, là, c'est qu'il... Bon, clairement, il va trop loin, quoi.
C'est parce qu'il y a twist sur twist, en fait. Le truc, c'est que Midsommar, il cherche pas à essayer de te... Enfin, tu le sais dès le départ, ce qu'ils veulent, c'est sacrifier quelqu'un pour que ça fasse... Enfin, tu le sais.
Et tu le sais pas dès le départ.
Non, mais je veux dire, tu comprends assez rapidement qu'ils ont ce genre de culture et que ça s'en va vers ça. Alors que là, ils essayent de te faire croire que c'est ça, mais en fait non, parce que c'est pas Rowan qui va être sacrifié, c'est toi, blablabla, et t'es juste genre, moi à aucun moment j'étais genre, oh, c'est Rowan qui va brûler, quoi, aucun moment, dès le départ j'étais genre, ok, lui va crever, quoi, il est là pour
ouais,
ça.
Ouais, je sais pas, je dirais pas que c'est aussi net que ça.
Mais c'est peut-être parce que j'ai déjà vu Midsommar aussi, c'est peut-être
voilà,
que parce
c'est ce que j'allais dire, il y a de ça, et puis après, le côté, même au pire, le côté nous, on sait quelque chose que le personnage principal ne sait pas, ça me dérange pas.
Oui. Non, mais
ça peut être sympa.
Mais par contre, après...
Je trouve que les défauts du film ne sont pas forcément là-dedans.
Non, non. Mais par contre, à côté de ça, le côté
l'exécution,
over-ended dans ta face, le côté genre on va essayer tous d'être louches pour que le policier il comprenne par lui-même que en fait on veut brûler Rowan, mais en fait non. Mais le fait que genre absolument, j'ai l'impression absolument aucune ligne dans ce film est délivrée de manière correcte, mis à part le policier au début qui parle avec Nick Cage pour lui dire c'est ton ex. Mais même là j'ai trouvé
super weird. Je suis pas convaincu non plus.
mais voilà, je trouve qu'il y a aucune ligne est délivrée de bonne manière, tout le monde est super weird.
Sister
Rose peut-être,
Summer Isle ça va,
ouais,
Rose aussi,
Rose et Summer Isle sont ok, mais même là t'es juste genre je sais pas, tout est bizarre. Cette tavernière, à chaque fois que je la voyais, je pouvais pas m'empêcher de rigoler. Mais c'est bizarre, là. Et ce qui était super drôle, c'est que j'ai regardé ça avec ma copine à l'époque. Et elle était genre, mais dévastée, quoi. À chaque fois qu'elle voyait cette femme-là, elle était genre, mais c'est la pire chose que j'ai vue de ma vie. Puis moi, je pouvais pas m'empêcher de rire parce que j'étais genre, c'est incroyable. Et les interactions entre elle et Nick Cage sont juste genre, t'as l'impression qu'ils se parlent pas. T'as l'impression qu'elle, elle dit des lignes, puis que lui, il dit des lignes, mais que c'est pas la même conversation. Et que c'est super bizarre. Et le taquet qu'il lui met dans la bouche. Enfin, moi, ce moment-là, tu sais, c'est genre, ouais, t'as raison, c'est genre, c'est une comédie tout d'un coup. On est passé dans du slapstick, puis ça n'a rien à voir. C'est super bizarre. C'est un film qui, tonalement, ne comprend pas ce qu'il veut être. On dirait que. Parce que. On parlait off-camera, off-air. du fait que moi j'ai vu la version théâtricale, c'est-à-dire que elle n'a pas la scène où avec les abeilles. Donc je suis quand même allé la voir sur internet parce que forcément j'allais la voir quoi. Enfin c'est la scène la plus intéressante du film. Et c'est la scène la plus iconique du film on va dire. Peut-être pas forcément la plus intéressante, mais la plus iconique.
Pas forcément en raison, mais bon.
Et toi non, mais la scène, le release théâtrical, justement la raison pour laquelle ils avaient pas cette scène là, c'est parce qu'ils voulaient avoir un PG-13. Mais c'est pas un film où qu'il faut que tu sois en PG-13, c'est un film il faudrait que soit rated A, 18 ans et plus.
Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je pense pas que ça manque. Non, tu vois, à part cette scène, et tu le sais parce que c'est mal fait la façon dont c'est. C'est juste que t'entends des bruits de le mec qui se fait péter les jambes, mais tu vois rien à l'image, et c'est trop bizarre, comme si t'avais ta vidéo qui buguait. Mais si t'avais pas eu ça, qu'il l'avait juste traîné après l'avoir assommé et tout, moi, il y a aucun moment dans un film, je me suis dit, ça manque de violence.
J'ai l'impression que le film a été écrit comme un film qui devait être un 18+, et qu'ensuite ils ont coupé dedans. Et en général, quand tu fais
ça. Ouais, mais ce qu'ils ont coupé, c'est pas grand chose, quoi.
Quand tu fais ça, c'est un peu compliqué, quoi. Le moment où tu vois la face du pilote. Alors, une fois de plus, pourquoi ils ont tué le pilote? Pourquoi? Ils voulaient qu'il soit là. Ça n'a aucun sens qu'il tue le pilote.
Ouais, par contre, ça, c'est vrai que c'est...
Tu sais, genre, en plus, je suis désolé, mais c'est littéral. Ils te le disent au début du film que c'est le seul gars qui leur amène leur courrier et leur truc. Tue pas le pilote.
Leur bouffe, de la bouffe, ouais.
Détruis l'avion, si tu veux. Genre, tu veux faire du théâtrique, détruis l'avion. Pourquoi tu tues le pilote? Aucun sens. Il y a plein de trucs dans ce film qui ne font aucun sens. À un moment, on le voit, il y a une cage à côté de... On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a une cage à côté du cimetière. Et c'est le genre de red herring qu'ils n'arrêtent pas de montrer, où t'as l'impression que la cage, elle va être importante, qu'elle va servir pour le tenir.
C'est l'os, quoi.
Non, la cage sert à rien. Mais c'est fascinant. Ce film est fascinant, mais pas pour les bonnes
raisons. Au final, je trouve pas qu'il y ait tant de choses qui ne fonctionnent pas, enfin, tant d'incohérences.
Oui.
Au final, je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Par contre, moi, je dirais que c'est l'exécution qui est assez ratée, quoi. Mais après, on va dire que si tu lis le script sans voir forcément l'exécution, un script, pas un script détaillé, mais un script assez large, en fait, je trouve l'histoire elle se tient et c'est un truc qui donne envie de. Ça te donne envie en fait. Après, en même temps, c'est un remake donc forcément.
C'est ça, j'ai l'impression que The Wicker Man de 70 est probablement un meilleur film que The Wicker Man 2000.
Je te confirme que c'est un meilleur film.
Voilà. Parce que oui, t'as tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord avec toi, le plot, le synopsis, en fait, en vrai, c'est aussi l'attrait de Midsommar, c'est cette espèce de culte et de machin, ça marche bien, en vrai. Quand tu le fais bien, ça marche bien.
Ouais.
Mais là, pas bien fait, quoi. Mais il en devient drôle. c'est un film que j'ai aimé regarder avec, parce que j'ai ri. Et c'est vrai que le truc, c'est que moi, je m'attendais vraiment à juste rire à la fin avec les bises ou quand il s'énerve avec How did it get burned? Mais je pense que j'ai rigolé à chaque fois qu'il y a un moment où la caméra elle coupe et qu'on passe à une autre scène. Il y a un moment qui me fait rire dans cette scène tout le temps. Que ce soit les gens qui sont genre horriblement horriblement louche, mais parce que le truc, c'est que je suis d'accord que tu sais, plus t'avances, plus tu comprends pourquoi ils sont louches, mais le fait est que genre ils sont tellement louches qu'ils
je parlais d'exécution, quoi.
Ce flic, il est tellement con qu'on va devoir être genre vraiment vraiment louche pour qu'il catch le fait qu'on est, ouais, genre, est fucking louche, genre c'est oh mon dieu.
C'est ça, c'est un peu, en fait oui, si tu le vois dans cet angle là je trouve que ça donne une lumière un peu différente au film, genre où les mecs sont obligés de surjouer parce que le personnage principal est particulièrement bête. Et là, ça explique beaucoup de choses.
Mais à ce niveau-là, tu rentrerais dans une comédie et je trouverais ce film beaucoup plus intéressant. Où les mecs, oui, où tu les vois, coup... genre par exemple, quand ce qui serait génial, c'est de voir des moments où par exemple, quand Nick Cage se retourne, tu vois les femmes derrière en mode genre putain, qu'est-ce qu'il est con, ou je sais pas quoi, t'es genre.
Tu sais, genre quand il se retourne. C'est comme un 2-3 soleil, d'un coup elles se mettent à faire un truc louche alors qu'elles étaient en train de faire.
Ouais, c'est ça, c'est genre elles sont normales, tout va bien, elles discutent avec des gens, machin, puis dès qu'il se retourne, il est juste genre. avec la musique.
Elles se frottent les mains, elles font.
Quand Barbe, elles se frottent les mains. Ce serait genre.
Celle-là, j'aurais des signes dans l'air. Mais oui, allez, un deuxième remake de ce film, mais en étant
une comédie.
Mais toujours avec Nicolas Cage.
Oui, tout à fait. Mais en fait, tu réenregistres juste les trucs autour. Tu gardes toute sa performance.
Ouais, tu fais des montages, tu sais, comme ils font les montages alternatifs, des fois. T'as des trucs comme ça sur YouTube avec, genre, Hérédité, mais c'est une comédie romantique.
Oui, voilà.
Joel Kinnaman, mais c'est une comédie.
Mais en tout cas, comme on parle pas mal de Nick Cage, même si on a quand même pas mal, je pense, dit notre ressenti de tout ça, concentrons-nous un peu plus sur notre ami Nick Cage et j'aimerais savoir ton avis par rapport à Nick en tant que tel.
Et en fait, je dirais que mon avis, il va se jouer sur une chose où on n'a pas forcément la réponse. C'est est-ce que les moments où il se met à s'énerver tout seul, on lui a demandé de le faire ou c'est lui qui a choisi de faire ça?
Il me semble que d'après certaines interviews, c'est lui qui savait. En fait, il savait pas, alors qu'il est producteur et alors que machin, il savait pas où le film s'en allait. Et du coup, il savait pas exactement sur quel pied danser. Et c'est pour ça que certaines scènes, après, il est comme ça. Le réalisateur est nul parce qu'il lui a pas expliqué comment
c'est
ça marche.
Acteur, voilà. Quoi.
Voilà. Mais enfin voilà quoi. Enfin, moi je trouve que ça.
Parce que ouais, moi la question pour moi, elle est vraiment là quoi. Je le trouve pas spécialement. En fait, je le trouve pas spécialement horrible sur la globalement dans le film. Mais c'est vrai qu'il y a ces scènes. Oui, alors en plus de partir dans des excès qui ne sont pas si excessifs que ça, mais en tout cas qui n'ont rien à faire là,
oui.
Il le fait de manière assez mal, donc ça, c'est pas le réalisateur, c'est lui. Okay. Mais on va dire qu'en dehors de ça, je trouve que ça va quoi. Enfin,
il n'y aurait
pas ça, c'est une prestation assez classique quoi. Enfin, bon,
oui, voilà, tu vois que par exemple, quand c'est au début. Quand il a probablement clairement une plus grosse vision de ce qu'il est censé faire, ça va plutôt bien. Tu sais, au début, il a l'air triste, il joue solidement, c'est rien d'exceptionnel, mais ça passe. Par contre, c'est vrai qu'après, à partir du moment où il sait plus trop ce qui se passe, ou comme je disais, quand il commence à rencontrer ce pilote, où il arrive pas à savoir est-ce qu'il faut qu'il soit grave, c'est.
Là, c'est pareil, de toute façon, les lignes, c'est pas lui qui les a inventées, hein.
Non.
C'était ce qui était écrit et qu'il devait dire, donc il y a aussi le problème, il est là, quoi.
Ouais, mais justement, probablement que, genre, quand il a lu les lignes, il est genre, mais attends, mais en fait, mon gars, maintenant, il est sassy. Donc il faut que je le joue de cette manière-là. Mais sauf que ça marche pas quoi dans le film. Enfin, ça va pas avec le reste du ton. Et il est tonalement extrêmement détaché de tout le reste du film, j'ai l'impression, Nick Cage. Ce qui en vrai fonctionne, va en la faveur du film. J'ai l'impression que si Nick Cage avait joué un personnage tonalement correct dans ce film-là, je l'aurais oublié. Tout le monde l'aurait oublié en fait. il n'y aurait rien d'exceptionnel. La raison pour laquelle ce film a une certaine qualité, c'est parce que t'as l'impression que Nick Cage est juste drunk, qu'il a mangé trop de miel et qu'il est juste complètement pété. Genre, il est sous cocaïne ou il a pris du sucre, je sais pas. Mais il est, genre, il est parti du début à la fin. Et,
bah, moi, pas je, du moi, début à la fin, ça, justement.
Non, enfin, du.
Que sur des scènes très spécifiques. Et justement, moi, c'est plus là où.
Oui, oui, il jump, ouais.
C'est là où. C'est bizarre, quoi. Il manque pas. Je pense qu'il manquait pas grand chose pour faire un film tout à fait correct. Mais après, au mieux, ça aurait été un remake qui apportait pas grand chose, oui, et qui était juste correct. Donc, quoi qu'il arrive, on peut pas dire que. Ce qui était proposé était incroyable.
J'aimerais te demander, c'est quoi la scène qui t'a le plus marqué, finalement? Parce que toi, ça n'a pas l'air d'être les bises. C'est quoi la scène où t'es juste genre, qu'est-ce que je suis en train de regarder?
Ah bah, moi, c'est la patate. Hein.
Ah ouais.
Bah oui, c'est tellement, ça vient tellement de nulle part. Et l'autre, elle est tellement assommée en un truc.
Moi, la scène qui m'a le plus marqué, c'est quand il, entre guillemets, agresse des enfants pour qu'ils enlèvent leur masque. Et qui court autour, ouais, de la ville et qui commence à gueuler de partout et qui est genre je vais la trouver, Rowan, je vais la trouver. Et puis il voit des enfants avec des masques d'animaux, donc il leur demande d'enlever leur masque parce qu'il veut voir si c'est Rowan ou pas. Puis juste il prend les enfants, puis il leur enlève le truc, tais-toi, viens là. Puis il leur enlève son masque et t'es juste genre ok, mon gars, je comprends que t'es pressé, je comprends tout l'urgence et tout ça, mais c'est violent là, ce que je sais pas là. Il y a un problème, t'as un problème, mon gars, mais bon, bref. Mais c'est vrai que ça, du coup, ça rend sa performance assez difficile à juger, j'ai l'impression, parce que, bon, bah en fait, pas tant. Sa performance en tant que telle, comme tu disais, elle est classique. J'y mettrais un...
Bah, on va dire qu'elle est au mieux... Voilà, elle est au mieux... Au mieux correcte, et avec des moments de pas correct du tout, quoi. Donc, du coup... ça peut pas être au-dessus de la moyenne, quoi.
Non, parce que bah, en fait, au final, je dirais même que ça va en dessous de la moyenne, parce que
oui, non, mais je disais, voilà, si le meilleur c'est le 5 sur 10 et que des fois il fait moins, bah là c'est forcément en dessous de la moyenne, oui.
Ouais, j'ai l'impression que on part sur une performance de 3,5-4, quoi, si on y va là-dedans, hein.
Ouais, pas 4, ça c'est sûr. Moi j'aurais dit entre. J'aurais dit. Mais Sony, c'est... il est à 2,5. Ouais, bon. Tu vois, Captain Corelli, il est à 3,5. Moi je le mettrais à 3, là.
Ouais, en fait, c'est ça le problème, c'est que oui, t'as raison. Si on juge juste sur sa performance, c'est ça, mais parce que genre, il faut pas que je juge le fait que j'ai trouvé ça. Que ça m'a amusé. Non, c'est juste d'une manière, oui, purement objective, parce que ça m'a amusé énormément. C'est super divertissant au possible. Mais c'est vrai que d'un point de vue purement objectif, t'as probablement raison. 3 est probablement une meilleure note.
Voilà. Et après, au niveau de la folie...
C'est du bonbon, quoi.
Bah ouais, mais en même temps, je pense pas que ce soit... incroyablement dingue non plus.
Non, mais c'est divertissant, quoi. Tu mets un 7, 7,5, je suis content, quoi.
Oui, voilà. Bah, je pense 7,5, parce qu'on avait mis 7 à l'adaptation. Ah, ouais. Moi, je mettrais 7,5.
Ouais, non, c'est plus qu'à l'adaptation. Parce que l'adaptation,
qu'on avait mis 7 à Mastic Man aussi, donc tu vois, bon.
Ouais. Non, c'est plus que ça. Parce qu'en fait, ça reste une moyenne. C'est-à-dire que bah, souvent, il est pas fou du tout, mais quand il part dans la folie, il est à fond, quoi. Donc une moyenne fait un 7,5, quoi.
On avait mis 7,75 à Essai Laurie Lula.
Hein.
Est-ce que c'est pas en moyenne
C'est en part, ouais, c'est en part avec Sailor et Lula, hein.
Ouais, 7,75.
Ouais, parce que les Sailor et Lula, il est constant dans sa folie, alors que là, il a des pics, donc 7,75, ça me va bien. Mais c'est ça. Par contre, moi, je le dis tout de suite, c'est que c'est super divertissant. Alors après, il faut aimer ce genre de cinéma, on s'entend aussi. Là. C'est quand même très très spécifique. Si vous aimez pas Nick Cage, consistant. Ça va être compliqué pour vous, mais enfin, pour moi, c'est super divertissant, quoi.
Après, en fait, on va dire que si ce film n'était pas un remake, tu pouvais le regarder dans le sens en disant c'est parce que le concept est intéressant, et tu regardes le film et tu t'imagines après dans ta tête qu'est-ce que pourrait être ce film, mais réussi.
Oui.
Mais en fait, là, il suffit de regarder le film d'origine, ouais, quoi.
C'est ça.
Et tu auras déjà cette version. C'est là où le film a du coup moins d'intérêt, c'est qu'il y a déjà une version réussie de ce film. Ouais. Sinon, tu aurais pu. Des fois, il y a des films comme ça où. Il y a plein de défauts, mais le concept est intéressant. Donc, tu peux après avoir une espèce de projection dans ton cerveau et c'est intéressant de faire ça. Là, bah, du coup, regardez directement l'original, quoi. Et si vous voulez vous sourire, mais tout en vraiment en cherchant ce petit truc de performance un peu bizarre, quoi, là, vous pouvez aller voir ce film-là, mais pas si vous voulez juste avoir un plaisir assez classique de cinéphile, on va dire.
Non, c'est assez sadique. C'est assez sadique, faut reconnaître. Parce que le problème avec The Wicker Man, c'est que c'est la seule raison pour laquelle je le considère comme un nanar, c'est Nick Cage. Le reste du film ne vaut pas la signification du nanar. C'est pas des films.
Je le considère pas comme un nanar non plus, quoi. Tu vois.
Moi, ouais. Mais c'est un.
Il est à la limite.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment à la limite, quoi. Et la chose qui le fait basculer, pour moi, c'est Nick Cage. T'enlèves Nick Cage, donc en gros, si t'aimes pas Nick Cage ou si t'as du mal avec certaines de ses performances, The Wicker Man, il va rien faire pour toi, quoi. Mais en même temps, si c'est le cas, vous ne regarderiez pas, je suppose. Donc voilà, quoi.
Bon, mais, je pense qu'on a fait le tour, hein.
Je te
propose de conclure cet épisode. Donc, bah, ce qu'on peut dire aux gens, c'est que bah, pour nous retrouver. Ils peuvent nous suivre sur les différents réseaux sociaux déjà. Ils peuvent nous suivre sur Twitter, donc @CitizenCagePod. Sur Instagram et Facebook, c'est CitizenCagePodcast.
Oui.
Et puis, le principal, quand même, le cœur de ce qu'on fait, hein, le podcast. Donc, pour louper aucun épisode, ils peuvent nous suivre sur les différentes plateformes de streaming de podcast. Donc, ça peut être sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer. Mais aussi avec le flux RSS, enfin en tout cas sur n'importe quelle application, les Podcasts Addicts et compagnie. Donc vous cherchez Citizen Cage et vous allez forcément nous trouver comme ça. Vous vous abonnez et puis il y en a quand même du lourd qui arrive parce que le prochain épisode c'est Ghost Rider,
hein, exact.
De je sais plus qui, Mark Steven Johnson. Voilà. Donc oui. On continue dans le un petit peu dans le nanar, on va dire. Donc voilà. Oui. Et on va pas en dire plus. On garde ça pour l'épisode prochain. Et puis on vous dit donc à dans 2 semaines. Ciao.
À bientôt tout le monde.